Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Il est 9h18, merci d'être avec nous. On va revenir sur le pouvoir, les coulisses du pouvoir ce matin. Ça s'appelle Élysée confidentiel, s'adresse un bilan sur le mandat d'Emmanuel Macron, 14 de ses proches, avec les auteurs, co-auteurs du livre, Paul Larouturou qui est avec nous.
Bonjour,
merci d'être avec nous. Journaliste et co-auteur, je l'ai dit, aux éditions Flammarion, et Elliot Blondet, bonjour.
Bonjour.
Et vous êtes photojournaliste, vous avez donc suivi Emmanuel Macron dans les coulisses depuis nombreux mois.
Oui, voilà, je vais y arriver. Oui, quasiment tout le quinquennat, en
absolument.
Fait. Hein.
Quasiment.
Ouais. Ouais, quasiment.
Tout le quinquennat en entier, du premier jour au dernier, quand ce sera fini.
Et vous pouvez faire aussi, même si évidemment ce n'est pas l'objet de ce livre, un comparatif avec beaucoup d'autres déplacements, soit de chef de l'État, puisque vous aviez suivi aussi François Hollande.
Tout le quinquennat de François Hollande.
Oui, ouais, bien sûr. Et puis d'autres.
Sarkozy,
et voilà, et d'autres déplacements de politique.
Bien sûr.
De politique en tant que tel. Déjà, avant de parler et de rentrer dans le détail en fait, de votre livre, hier, il y a eu ce déplacement d'Emmanuel Macron, donc, à Lyon, et qui a reçu cet œuf dur.
Voilà, qui a rebondi.
Est-ce que le chef de l'État, vous qui êtes photographé, vous qui l'approchez beaucoup avec le micro, est quand même bien protégé ou pas? Alors justement, il est en contact avec le public?
Oui et non, c'est-à-dire que son service d'ordre fait absolument tout ce qu'il peut, mais lui va toujours au contact. J'y étais à Lyon, je suis le premier à lui avoir posé la question, Éric Zemmour, ce qui n'a rien à voir avec l'œuf dont vous parlez.
Oui, oui, bien sûr.
Et pour répondre à votre question, non, il n'est pas assez protégé parce qu'il va au contact. Et il devance ceux qui sont censés faire barrière entre les gens et lui. Donc ça a créé la gifle et ça a créé l'œuf hier, mais il le revendique et lui dit qu'il prend son risque, qu'il ne veut pas être dans sa bulle, ce qui est justement l'objet de notre livre.
Oui, parce que bien sûr, vous parlez beaucoup d'une bulle.
Oui, c'est un terme sécuritaire à la base.
Oui,
la bulle sécuritaire.
Oui, elle existe quand même, cette bulle autour du chef de l'État, Elliot Blondet.
Oui, bien sûr, cette bulle, elle existe puisque déjà, il n'y a qu'une partie des journalistes qui peuvent couvrir au plus près le président, c'est ce qu'on appelle le pool. Mmh. Donc oui, c'est vrai que cette bulle des journalistes se heurte aussi à cette bulle de la sécurité, qui est quand même bien présente.
Et puis c'est la bulle de la fameuse solitude du pouvoir, un homme qui peut donner la mort, parfois quand il envoie des soldats. Dans le livre, on parle notamment de... Sibeth Enner raconte les pleurs, la façon dont le président de la République a été bouleversé lors des premiers soldats décédés suite à une décision qu'il a prise. Et donc cette solitude-là, on ne peut pas savoir ce que c'est d'être le responsable de toute une nation, de 65 millions d'âmes. Et puis il y a aussi une forme, ce qui a créé la crise des Gilets jaunes, une forme d'arrogance, le phénomène du château. Et donc la bulle, elle est polymorphe et c'est pour ça qu'on a interviewé 14 personnes, 14 portraits croisés. Chacun raconte son Emmanuel Macron, ça va de Christophe Castaner aux Gilets jaunes.
Mais est-ce qu'il a changé? Est-ce qu'il a évolué en 5 ans? Dans quel sens?
Oui, Elliot Blondet.
Je ne sais pas ce qui a changé. Je pense que ce serait prétentieux, même si notre livre essaie d'en parler.
Bah oui. Mais vous partez de Manuel Valls, par exemple, avant qu'il ne soit président de la République.
Ça s'appelle trahison au pluriel.
Oui.
Mais ce qu'on voulait vraiment faire avec Paul, et ce qui est assez fascinant dans un quinquennat, c'est que raconter un quinquennat, raconter une personne politique, c'est pas raconter que la personne politique. C'est aussi raconter tous les Français, tous les gens en fait qui viennent au contact de cette bulle du pouvoir, de cette bulle présidentielle, comme par exemple Gépi, qui est le seul gilet jaune à avoir été reçu.
Alors c'est ça, oui.
Au palais.
Oui, oui.
Mais est-ce que ça veut dire qu'il a un lien différent aujourd'hui avec les Français?
Pour répondre à votre question, la première, oui, il a changé profondément, il s'est durci, il s'est droitisé, tout le monde le dit, que ce soit les gens de gauche ou de droite. Et oui, son rapport à la fois a changé, c'est-à-dire qu'il continue à aller au contact, et en même temps, maintenant il a un passif, quoi. Il a été président pendant 5 ans, il va devoir en répondre, il y a des réformes qu'il a faites, d'autres qu'il n'a pas faites, genre par exemple la réforme des retraites, il a dit qu'il a fait, il ne la fera pas, ça ne rentre plus dans le temps. Donc oui, moi je pense qu'il a profondément changé, et en même temps, si j'ose dire, il garde parfois une forme de fraîcheur qui nous étonne et d'empathie. C'est-à-dire que on a Jonathan Gérard, le premier, vous savez, une des petites phrases qui est restée comme un sparadrap sur son front, je traverse la rue, je vous trouve un travail.
Ouais.
C'est-à-dire qu'on l'a vu, Emmanuel Macron, on l'a vu profondément capable d'empathie. On a vu des moments vraiment où il était dans l'empathie. Et là, Jonathan Gérard dit, il m'a bâclé, c'est-à-dire qu'il aurait pris 40 secondes de plus pour écouter, pour comprendre que ce garçon qui galère profondément, je l'ai eu au téléphone il y a 2 jours, il galère. Vraiment, sa vie est dure. Il fait ce qu'il peut. Mm-hmm. Et lui, il a vraiment bâclé, il n'a pas pris le temps. Et ça, je crois que ça lui a coûté cher. Et parfois, je pense qu'il a le sentiment de savoir mieux que les autres, et certains intimes le disent lui-même.
Oui, bien sûr. Il y a des confidences.
Voilà, et c'est un vrai problème.
Oui,
c'est un vrai
problème. Alors, on va y revenir aussi parce qu'il y a quelque chose qui est intéressant. C'est un peu comme une cour d'école, quand même, aussi, parfois à l'intérieur de cette bulle. Avec l'exemple de Christophe Castaner, qui se fait enguirlander.
Comme un enfant.
Et encore, j'utilise, en fait, ce mot avec à propos pour parler de leur passe, en fait, quand, à un moment donné, passe d'armes, quand ça n'allait pas bien sur la crise des Gilets jaunes. C'est pas sur la crise des Gilets jaunes.
C'est une des révélations de ce livre. Il y a vraiment des notes inédites. Ça, si elle nous intéresse, c'est sur l'islam de France.
Oui.
Lors de la réforme du CFCM, où Emmanuel Macron l'humilie, il n'y a pas d'autre mot, à l'Élysée, en disant on n'est jamais à l'abri d'un coup de chance. Et il lui envoie un télégramme, Christophe Castaner, donc ministre de l'Intérieur, au président de la République, en disant tu ne me parles plus jamais comme ça. Sa secrétaire l'appelle, il s'engueule. Et donc il nous raconte vraiment, ça a twisté, quoi.
Oui, complètement. Lydia Guirous, votre regard est intéressant parce que vous avez évidemment, aujourd'hui, vous êtes commentatrice, éditorialiste, mais vous avez fait beaucoup de politique. Vous avez été un peu plus dans la bulle Nicolas Sarkozy. Oui. Il y a une bulle véritablement dans ce monde politique où on essaie d'être entre soi avec les journalistes en fait qui viennent se greffer pour ensuite relayer la parole, les images, les photos auprès du grand public.
Oui, évidemment qu'il y a une bulle. Il y a la bulle des conseillers, très peu nombreux. Il y a la bulle des courtisans qui sont très présents, qui diront toujours que tout va bien. Et c'est souvent d'ailleurs celui qui osera dire que ça ne va pas ou que la décision est mauvaise qui sera le plus respecté et écouté. Et puis il y a la bulle des journalistes qui sont sélectionnés. Certains ont une relation beaucoup plus étroite avec le puissant parce qu'ils pourront mieux traiter l'information. Et donc vous avez les journalistes qui ont leur préférence à gauche et ceux qui ont leur préférence à droite. Effectivement, il y a cette bulle, même quand on est dans l'opposition. Moi, je l'ai connue en tout cas avec la droite qui était dans l'opposition, pas au gouvernement, au pouvoir. Oui.
Paul Laroutourou, ça existe.
Alors
cette sélection dont parle Lydia Guirous, elle existe.
Mais évidemment, c'est tout notre dernier chapitre. La sentinelle, Laurence Benamou, la co-correspondantie à Jérôme Rivet et Laurence Benamou à l'AFP, qui couvre tous les déplacements. Et c'est vrai qu'évidemment, il y a un phénomène de cour qui va jusqu'à la presse. Et il y a une phrase assez forte de Bruno Roger Petit, que je tente de citer de bon matin de mémoire. Où il dit, en résumé, du temps de Mitterrand, le problème, c'est que tout le monde était courtisan. Et maintenant, le problème, c'est qu'avec Emmanuel Macron, tous les journalistes ont un peu envie de se faire Emmanuel Macron. Donc, ils pensent que ça s'est un petit peu inversé. Donc, hors de la bulle, hors du pool, mais à l'intérieur, évidemment, bien sûr qu'il y a des courtisans.
Quand on est à l'intérieur de la bulle, ce que disait Lydia Guirous, est-ce qu'il faut être bienveillant si on ne l'est pas, y compris journaliste, bien sûr, si on ne l'est pas, on se fait exclure et sortir de la bulle. Vous avez été, vous êtes connu pour avoir de la ténacité.
C'est parce que vous avez de l'influence et une puissance médiatique que vous pouvez parfois taper un petit peu.
Alors, très sincèrement, je crois qu'on est nombreux dans la presse présidentielle a tenté d'être tout simplement et très humblement un contre-pouvoir. C'est un rapport de force permanent. Donc, il y a des moments de sourire. Quand hier, Emmanuel Macron me répond à ma question Éric Zemmour, et quand je lui repose la question « Allez-vous le lire ? L'avez-vous regardé ?» Il me regarde, il me fait un clin d'œil, il dit « Vous ne m'aurez pas ». Certains y verront une connivence. Moi, je vois surtout une façon politique de répondre. Je ne tomberai pas dans ce piège.
Bien sûr.
J'ai cette réponse parce que je lui pose trois fois la question. On est nombreux. On n'est pas les seuls. Effectivement, avec Elliot, on a couvert tout le quinquennat.
Ouais.
On l'a suivi dans le monde entier. Donc, on l'a vraiment beaucoup couvert, beaucoup connu. Mais on est quand même nombreux, contrairement à ce que vous dites, je l'espère, à ne pas être dans ce rôle de courtisan, monsieur le président, comme vous êtes fort. Je l'espère, en tout cas. J'espère qu'on l'a montré par notre travail.
Est-ce que dans cette période d'élection présidentielle, la peur de la trahison, vous sentez qu'il y a cette peur de la trahison, justement, autour de lui.
Elliot Blandet. Ouais.
Cette peur de la trahison, je ne sais pas.
Non, vous la sentez pas. Non.
Il a trahi quand même Emmanuel Macron. Il a trahi François Hollande. C'est le premier chapitre raconté par
Manuel Valls. Par Manuel Valls, sur les bancs de l'Assemblée nationale.
Sûr, c'est factuel. Il y a une chronologie. Il l'a fait scientifiquement. Et Manuel Valls nous le raconte de façon assez détaillée avant lui-même que je lui dise. Mais vous-même, monsieur Valls, vous avez quand même pas mal trahi. Donc évidemment, il y a une trahison permanente. Et puis là. La question, à mon avis, c'est pour je crois que vous menez à Édouard Philippe. Je crois qu'il n'ira pas cette fois-ci. Ça me paraît désormais limpide. Il l'a dit publiquement, donc je pense qu'il n'y a pas dans le camp du président de la République quelqu'un qui puisse émerger face à lui, à mon avis, sera candidat, évidemment.
Non, mais pas forcément quelqu'un qui puisse émerger, mais des gens qui puissent parler, raconter, dire des choses. Voilà, parce qu'il y a certaines personnes qui se sont cherchées quand même. Si Beth Ndiaye,
elle y va, oui, dans ce livre, selon les vrais reproches politiques qu'elle fait au président de la République, bien sûr, mais on essaie de déplier en longueur et il y a à la fois les qualités et les défauts. C'est ni un livre, ni à charge, ni à décharge. On est très heureux parce qu'on a des messages de lecteurs qui disent « J'avais jamais acheté de livre politique. Vous êtes jeune, parce qu'on a Elliot a 27 ans, j'en avoir 35, donc c'est un livre de trentenaire. » Et surtout, on essaie de s'amuser dans l'écriture. Christophe Castaner, je l'écris House of Orcalquier à un moment avec Manuel Valls, je pars dans un délire sur le Roi Lion. Donc on essaie de partager notre passion de la politique, qui est une matière noble, notre amour absolu du terrain. Et moi, c'est une rencontre avec Elliot. Je ne sais pas ce que vous avez trouvé, mais on a essayé de vous concevoir un beau livre, un bel objet avec les photos.
Je vais caricaturer, mais comme une bande dessinée, quelque part.
Oui, bien sûr. Il y a des bandes dessinées incroyables.
Allez, on poursuit encore 10 minutes avec vous, Paul Laroutourou, Elliot Blondet, pour ce livre, Élysée confidentielle. Et vous, si vous voulez réagir, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas, 0826-300-300.
C'est confidentiel, mais on vous dira tout dans un instant. À tout de suite.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Il est 9h33.
Oui, dans 10 minutes maintenant, la France à vos côtés, comme chaque matin, derrière des combats, des idées, etc., exemplaires. Et ce matin, Cécile, on s'intéressera à
La précarité des étudiants aujourd'hui, lourdement fragilisés à la suite de la crise du Covid. Je rappelle deux, trois chiffres, plus d'un étudiant sur deux a un reste à vivre inférieur à 50 euros par mois, ce qui était quand même pas beaucoup. 46% des étudiants sautent un repas pour des raisons financières et renoncent aussi à des soins médicaux. La situation s'explique, hausse des loyers en province, en banlieue parisienne et à Paris, très peu de jobs d'appoint à l'époque. Là, ça redémarre un petit peu, mais c'était très compliqué pour eux. Et puis, c'était la fin de 1 euro pour les boursiers, vous savez.
Pendant la période du Covid.
Exactement, ouais. pour les repas. Donc,
dans
voilà,
les crousses,
Et aujourd'hui, ça pèse forcément sur le budget. On en parlera avec trois invités, donc un étudiant, la vice-présidente de l'UNEF et une association qui s'appelle LinkedIn. En tout cas, qui vient au secours de ces étudiants en distribuant des repas tous les jours. Et ces repas, vous allez voir, ça augmente tous les jours, tous les jours, tous les jours.
Voilà, oui, alors restons maintenant et revenons sur Élysée confidentielle qui est sortie il y a quelques jours, qui marche déjà beaucoup en librairie, aux éditions Flammarion. Paul Laroutourou et Elliot Blondet. Paul Laroutourou, journaliste, on l'a vu beaucoup à Quotidien, bien sûr, avec son micro. Il allait enquiquiner, si je puis dire, l'ensemble des politiques, etc. je ne vous parle pas. Partez de là. Voilà, vous êtes fait remarquer pour ça. Elliot Blondet, vous êtes plus discret puisque vous êtes photographe et donc vous essayez d'être dans l'ombre pour prendre les politiques.
Moment.
Oui, c'est ça, en lumière. Emmanuel Macron, justement, et les photographes, il aime jouer ou pas? Parce qu'il y a beaucoup de photos dans ce livre aussi. Pas que d'Emmanuel Macron, bien sûr. Mais...
La légende dit qu'il n'est pas très à l'aise avec la photographie. Alors que pourtant, je pense que c'est quand même un président qui a, notamment avec Arnaud Jolens, qui est donc le
scénographe
du président qui est dans le livre et qui nous fait des confidences vraiment intéressantes, a vraiment révolutionné l'image présidentielle. Pour nous, ça a été des mises en scène beaucoup plus importantes, beaucoup plus grandioses et même des choses beaucoup plus réfléchies. Je pense notamment à la fameuse Marianne lors de la cérémonie à la préfecture de police suite à l'attentat qu'il y avait eu. Je pense aussi à la scénographie qui était très, très construite aussi lors de l'hommage à Samuel Paty à la Sorbonne. Pour nous, photographes, c'est toujours compliqué parce qu'on a toujours la sécurité tout autour.
Bien sûr.
Mais ça reste quand même quelque chose de...
Mais quel regard il a sur lui, justement? Est-ce qu'il check les photos? Est-ce qu'il regarde? Ou quelqu'un d'autre s'en occupe? Est-ce que c'est Brigitte Macron?
Ça, vous ne publiez pas.
Ah non. Notre travail de journaliste, moi je fais partie du comité de liaison, on est des photographes complètement indépendants, personne n'a vérifié.
Non, mais c'est intéressant et c'est important en fait de le dire. Et de même je précise pour les auditeurs qui nous rejoignent, c'est pas un livre à l'ode ou en l'honneur d'Emmanuel Macron. Il y a des gens qui sont admiratifs, certes, et puis il y a beaucoup d'autres qui sont déçus à travers les 14 portraits.
c'était vraiment la ligne de crête qu'on voulait garder avec Paul, et je pense que c'est comme ça qu'on a réussi à avoir la confiance de vos personnages. C'était
ouais. Et puisque on parle de scénographie, Paul Laroutour, vous le suivez aussi, Emmanuel Macron, comme vous suivez beaucoup d'autres politiques, on dit beaucoup de lui que c'est un acteur. D'ailleurs, il a fait du théâtre avec une certaine Brigitte Macron, en fait, à une époque, hein, bien sûr, c'est comme ça qu'ils se sont connus. Et vous le sentez aussi comme ça, c'est-à-dire jouant un peu aussi.
Le meilleur pour répondre à cette question, c'est un personnage de notre livre, il s'appelle Jean-Marc Dumonté, grand producteur de théâtre, tout un théâtre, et on s'est amusé à l'écrire en pièce de théâtre, et donc Jean-Marc Dumonté répond en longueur à cette question, et la réponse, évidemment, est oui. C'est un acteur qui mute selon les heures de la journée, alors ce qui n'empêche pas, évidemment, une forme de sincérité, il croit, je pense, assez souvent dans ce qu'il dit, bien sûr, il déclame pas forcément le texte d'un autre, d'ailleurs si Beth Ndiaye nous confie qu'elle en peut plus du temps qu'il met à écrire 15 millions de fois ses discours, et vraiment, c'est manifestement une torture d'écrire avec lui les discours.
Et finir ses discours en improvisant.
Bien sûr. Oui, bien sûr. Et on l'a vu à Whirlpool, il y a des moments où il est capable de grands moments d'improvisation, et puis il y a des moments où il, comme au Louvre, où il... vraiment, il le pense. Ça dure des plombs, ça dure 4 minutes, il marche, bien sûr.
C'est très théâtral. Nicolas Sarkozy avait un peu ça. Peut-être un peu moins avec François Hollande, mais Lydia Guérousse, Nicolas Sarkozy aussi, il était soucieux, en fait, de tout ça. De l'image, bien sûr, de ce qu'il pouvait renvoyer, quoi.
Je pense que tous les présidents, peut-être à l'exception de François Hollande...
Bon, qui l'avait, mais qui, bon, pas de la même manière.
C'était un peu raté, malheureusement. Il n'a pas eu beaucoup de chance.
Il y avait la pluie.
Exactement, je pensais à cela. Son soucieux de l'image, de la scénographie, mais Nicolas Sarkozy, il avait aussi ce charisme qui était assez incroyable lorsqu'il prenait la parole, qu'a aussi d'ailleurs Emmanuel Macron dans un autre style. Mais Emmanuel Macron, on sent véritablement qu'il y a un côté presque théâtral et un vrai souci de la mise en scène, et on l'a vu dès son premier discours. Rappelez-vous cette longue marche au Louvre avec ce triangle derrière lui.
On pensé a compris... par Arnaud Jolin, justement, son scénographe.
Pensé par
Arnaud Jolin, son scénographe, qui est dans le livre,
qui est justement. Dans le livre.
Avec énormément de symbolique derrière, et là, on a véritablement compris que ça allait être un président qui n'allait pas être un président normal, mais un président qui allait se mettre en scène, un président qui voulait être au-dessus, et c'était la fameuse présidence jupitérienne qui a parfois du coup dérivé vers beaucoup d'arrogance et de mépris. J'ai l'impression qu'il le rattrape maintenant, puisqu'il a compris ce qu'était la France. Et moi, j'ai une question dans le livre. Qui sont les plus durs avec Emmanuel Macron, et quels sont les regrets qui reviennent le plus?
Il y a Manuel Valls, dans un premier temps.
En dehors d'Emmanuel Valls, on comprend la trahison initiale.
Ce qui est intéressant, c'est que Manuel Valls, il y a aussi une part d'admiration, pas de jalousie, mais de... Moi, un de mes passages préférés dans son autocritique, c'est qu'on fait un peu la galerie des grands traîtres, et dont Sarkozy, qui avait évidemment trahi Chirac, etc. Et il dit en résumé, moi j'ai trahi, ok, mais je me suis foiré, et j'ai raté, pardon, je suis vulgaire, pardon.
Ouais.
Et Emmanuel Macron, il a trahi, il a réussi. Et donc il y a une forme de tristesse, et c'est ce que rend si bien, je trouve, la photo d'Eliott où on le voit regarder par la fenêtre. C'est l'histoire d'un premier ministre qui voulait être président, et puis qui se retrouve regarder par la fenêtre le quinquennat. Il va à Barcelone, ça marche pas, et donc Manuel Valls, à la fois évidemment il est dur, mais il est aussi à certains moments il est vraiment très amélioratif sur le président de la République. Et j'aurais du mal à vous répondre parce que, encore une fois, les ennemis disent du bien et les amis disent du mal. Aurélien Taché, par exemple, en vrai, on s'attendait. Aurélien Taché, donc je rappelle, donc député République En Marche, spécialiste des questions de pauvreté, le chapitre s'appelle Monsieur Pauvreté, le président des riches, donc on va fond sur cette thématique, et il raconte évidemment que selon lui, le président Macron n'a un peu rien à faire des pauvres, pour la faire courte, mais quand même, il dit, j'étais à Calais avec lui, avec le président de la République, il était dans une sale journée, je me suis comporté comme un courtisan, il dit textuellement, je l'ai trouvé beau dans son costume, je n'ai pas osé lui dire les choses. Et donc ça nous a vraiment beaucoup surpris, et c'est, on est très heureux que dans ce livre, certainement ceux qui sont censés taper comme des sourds, ils sont capables de subtilité, et de dire aussi peut-être que les choses sont un tout petit peu compliquées.
Mais il y a des mots aussi qui claquent, Beth Ndiaye, qui dit qu'elle a pris des balles perdues pour lui, et ça, ce qui prouve un engagement incroyable, une abnégation pour le président, en fait.
Oui, c'est le côté, je trouve, noble de la cour. Il y a des gens qui sont prêts à mourir pour Emmanuel Macron.
Des soldats.
Il y en a eu pour tous les présidents dans l'histoire de la 5e République, et même avant. Et Cybette, et il y a une phrase qui est très belle aussi à la fin, je ne vais pas le lire sous les yeux, mais où elle dit, j'aurais aimé en gros qu'on soit moins proche. C'est-à-dire que ça lui a coûté cher. Elle a fait des bêtises, attention, elle a dit toutes les bêtises, et elle a dit des bêtises. Oh, ça, elle en a dit. Mais bien sûr, il y a une forme d'abnégation, il y a une forme de. Sur le Covid, les perquisitions à son domicile aussi. Enfin, c'est des, c'est des,
des scènes qui sont violentes.
Des scènes qui sont, et ça s'appelle les signes noirs, ce chapitre, parce qu'il y a eu, c'est un mot que je connaissais pas, vraiment.
Elle l'utilise.
Je connaissais vraiment pas ce mot. En fait, c'est une façon de qualifier des événements qui, avec le recul, paraissent évidents, mais on s'y attendait pas. L'élection d'Emmanuel Macron, les gilets jaunes ou le Covid. Et je trouve qu'on, grâce à elle, dans sa pédagogie du pouvoir, on comprend, et ses erreurs, parce que vraiment, encore une fois, je le répète, on y va sur ses erreurs, on fait de toutes ces bêtises, et elle en a fait, et elle en a dites, et aussi, on raconte aussi, et notamment, je vous donne un petit bonus, qu'on n'a pas écrit dans le livre parce qu'on avait trop de matière, et donc ça, je ne l'ai pas mis. Vous savez, la fameuse scène sur BFM où elle fume.
Oui.
Donc on l'a chambrée là-dessus, et en fait, elle nous raconte, mais vraiment, je l'ai senti très sincèrement. Sorcière, c'est le jour où il y a eu la première projection, où, comme quoi il pourrait y avoir jusqu'à 500 000 morts en France sur plusieurs années, enfin sur plusieurs mois à cause du Covid. Et elle raconte en fait qu'elle a repris la clope ce jour-là. Et après que son mari et ses enfants l'ont engueulé parce qu'elle a repris la clope. Mais il y a une forme de... Nous, ça nous a touchés parce qu'elle nous parle vraiment du pouvoir de l'intérieur, comment ça marche. Et il y a de la com, et il ne faut pas écouter tout ce que disent les politiques. Bien sûr, il faut prendre du recul sur ce qu'ils disent, mais ils ont vécu quand même des... Enfin, les gilets jaunes, à mon avis, l'ont en grande partie provoqué, mais le Covid, ils ont quand même fait pour beaucoup ce qu'ils pouvaient, et ils s'en sont pris plein la figure, et il le raconte, je trouve, avec beaucoup de sincérité.
Oui, absolument. Élysée confidentiel, donc Paul Laroutourou et Elliot Blondet, photojournaliste et co-auteur de ce livre. Merci d'être venu ce matin au micro de Sud Radio, et puis bon, on va continuer de suivre ça, parce que évidemment, plus que jamais, on aura besoin des confidences autour de l'Élysée et de tout ce qui va se passer. Dans un instant, la France à vos côtés,
sur la précarité des étudiants.
Des étudiants,
avec nos invités. Et, vous voulez nous appeler ou nous en parler, 0826 300 300, vous attendez. Donc standard, à tout de suite.